pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
L'eau est un bien commun. Le but, c'est pas qu'il y ait des très gros, très forts qui s'accaparent ce bien de tous. Mais le système bassine n'est rien de moins qu'une privatisation d'un bien commun. On voudrait des agriculteurs et des agricultrices qui nous nourrissent et qui n'exportent pas notre eau.
Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on veut en faire du peu d'eau qui est disponible? Comment on se débrouille, non pas pour la stocker dans notre coin égoïstement et se la mettre sous le coude, mais l'avoir là pour pouvoir la partager? Donc c'est bien la question du partage de l'eau. Alors on n'appelle pas ça une ressource, on n'appelle pas ça un stockage naturel, on parle de partage d'un commun. On va pouvoir s'en servir, oui, pourquoi pas, mais soyons d'accord sur comment, discutons ensemble des priorités. C'est beaucoup plus long de se mettre d'accord sur comment on va pouvoir partager ce truc-là que de dire « moi, je prends ça ». C'est beaucoup plus long.
L'agro-industrie nous bassine avec ses méga-bassines qui pompent dans les nappes phréatiques pour notamment fabriquer du maïs pour bestiaux, maïs parfois destiné à fabriquer des hamburgers à l'autre bout du monde, enfin en gros quoi. Et si avec les bassines, dans le mortifère cauchemar agro-industriel qui continue à se mettre en place, il y a aussi des poisons chimiques, des OGM, des camps de concentration pour animaux, du béton, et aussi des terres nourricières qui ne produisent plus de nourriture, mais de l'énergie.
Les alternatives au pétrole sont mises en avant et l'agriculture devient au service de la production d'énergie. Devient plus au service de la production d'alimentaire, mais bien au service de la production d'énergie. L'objectif, c'est quoi? C'est de créer de l'énergie. C'est pas du tout de faire du lait, c'est pas du tout de faire de l'amendement pour les champs. Toute cette agriculture-là, elle est au service de la production d'énergie. Tout le reste, c'est des sous-produits. On fait 500 vaches pour faire de l'énergie, des alternatives au pétrole. On ne se pose pas la question de savoir de qu'est-ce qu'on a besoin comme énergie, pourquoi faire? Non, il faut remettre de l'énergie dans les tuyaux parce qu'on en a besoin pour continuer ce développement, le modèle, allez, capitaliste.
Pour moi, c'est l'État qui instrumentalise tout ça. C'est une volonté, en fait, et c'est un mépris de classe pour moi terrible, en fait. On ne fait pas attention aux paysans et aux agriculteurs et agricultrices, en fait. On s'en fout, tu vois, c'est un mépris. Et pour les gens qui se mettent dans la merde, la course au productivisme, moi, je pense que ces gens-là, ils sont pas bien avec ça non plus. Et puis les paysans et paysannes, les agriculteurs et les agricultrices qui font leur métier de façon à respecter l'environnement, à respecter les hommes et les femmes qui travaillent la terre, eh ben en fait, ils trouvent pas leur place là-dedans. Mais c'est toujours une question économique, c'est comment tu fais du revenu. Tant que les paysans et les paysannes et les agriculteurs et les agricultrices, ils pourront pas vivre de leur métier, ils chercheront toujours à faire de la merde comme ça. L'énergie, ça rapporte mieux, tu vois. Avoir un méthaniseur, ça rapporte mieux. Avoir des panneaux solaires sur tes terres, ça rapporte mieux. Des éoliennes dans ton champ, ça rapporte plus de thunes que faire pousser du blé.
Salut les amis, c'est JBD et la voix off est aujourd'hui dans le sud de la campagne de l'Indre-et-Loire, en région centre, pas loin du village de Champigny-sur-Veude, un coin où on vous a déjà emmené en reportage en décembre 2023 quand une centaine de personnes s'étaient mobilisées contre un projet de bassine et jusque-là, cette bassine-ci n'est pas passée, enfin pour le moment en tout cas. Car avec cette bassine pourrait peut-être aussi venir une ferme de 800 vaches et un méthaniseur. L'agro-industrie a plus d'une horreur dans son sac, que ce soit dans cette campagne de la région centre ou partout ailleurs en France et sur la planète. Mais l'alerte au méthaniseur n'est pas le sujet de cette émission enregistrée le samedi 5 avril 2025. Ce jour-là, la Confédération Paysanne, le syndicat agricole intelligent qu'on aime, et des gens des soulèvements de la terre ont convié qui voulait à venir à Champigny-sur-Veude pour passer une chouette journée festive et familiale avec au programme balade naturaliste, conférence sur le cycle de l'eau par notre hydrogéologue préféré Anne Morouen-Pastier de Bassine Non Merci, et puis goûter, foie, crêpes, bière et jus de pomme locaux et un petit bal folk pour finir. Et 200 à 300 personnes sont venues passer un bien agréable après-midi. Cette fête de la conf a eu lieu aux abords d'une zone humide, d'anciens étangs de pisciculture, pas loin de Champigny. Un chouette chemin de balade y a été aménagé et, printemps oblige, les grenouilles s'en donnaient à cœur joie et en plein après-midi. Alors bon, c'est pas vraiment un reportage qui vous attend pour cette heure qu'on va passer ensemble, plutôt des discussions avec des copains qui gravitent autour de la Confédération paysanne. Samedi 5 avril, c'est une belle journée de printemps et ça fait du bien et le grand plaisir dans ce coin de Sud-Touraine de retomber sur Phil. Salut Phil.
Salut, comment vas-tu ?
Eh ben...
Parce que à toi, on ne te pose pas souvent ce genre de questions. Comment tu vas ? Tu t'intéresses beaucoup à nous, mais nous, est-ce qu'on s'intéresse à toi ?
Je te remercie pour cette question. Eh ben, je vais bien parce que ça me met toujours en joie de venir sur des événements. Alors, le contexte n'est pas drôle, en fait. Hein. C'est pas rigolo, ce monde plein de poisons chimiques, de béton, de colonialisme, de patriarcat, de capitalisme. Mais en fait, faire des choses contre, c'est l'occasion de rencontrer et de revoir des gens que j'aime. Depuis que je connais Bassine Non Merci, que je participe à des manifestations, des pique-niques, je le dis en toute simplicité, ça m'a sauvé ma santé psychique, en fait, de savoir qu'il y a des copains.
Tu peux dire que ça peut faire du bien de rejoindre ces luttes ou de s'en emparer, c'est ça que tu veux dire ?
Ça fait pas très militant ce que je veux dire, mais...
C'est une question qu'on pose à un journaliste, c'est pas une question qu'on pose à un militant. C'est ton point de vue de journaliste qui nous intéresse aujourd'hui, Jean-Baptiste.
D'abord, je ne suis pas journaliste, je suis un relayeur de parole. Quelqu'un qui tend le micro, mais j'ai pas la rigueur d'un journaliste, je n'ai pas de carte de presse. J'estime qu'il y a des gens qui ont des choses intéressantes à dire, je leur tends le micro, je me vis plutôt comme un transmetteur de parole et un raconteur de faits, mais c'est pas du journalisme. Un journaliste, il va chercher des sources, il les croise, et machin. Moi, je fais rien de tout ça. Je fais ce qu'un journaliste ne doit absolument pas faire, c'est que, par exemple, je te fais confiance. Quand je te tends le micro, je sais que je peux te tendre le micro.
Là, je suis même carrément en train de faire un hold-up. C'est pas moi qui tiens le micro, mais c'est moi qui te pose des questions.
Ouais, mais c'est cool. Merci pour ce renversement des rôles. Parce que c'est vrai que je m'interroge beaucoup sur cette longue série, sur le village de l'eau que je suis en train de faire. À quoi ça sert ? C'est ma vision, c'est très subjectif. Mais au-delà de la chose militante, en fait, je vais te faire l'aveu. C'est ça qu'on a vécu pleinement, je crois, tous au village de l'eau. Le militant ne va pas sans l'humain. Et sans la chaleur humaine, et sans le respect, l'affection, l'estime qu'on a et qu'on se doit les uns aux unes, les unes aux autres, et tout le monde entre tout le monde en fait. Donc je suis aussi là pour glaner de la chaleur humaine, me sentir bien avec des gens pour qui j'ai de l'amour. J'aime Anne-Marouen Pastier, j'aime Julien Leguet, je t'aime toi, j'aime tous ces gens dont je ne connais pas les prénoms, mais avec qui je me suis fait gazer et nasser à la manif de La Rochelle le 20 juillet 2024. Je me sens bien avec vous, les copains. Ça me fait du bien de raconter ce que vous faites.
Voilà. Je me dis que nos luttes là, qui s'expriment, et quand tu parles de on est vraiment ensemble, on est bien, on est heureux de se faire du bien à être ensemble. C'est des groupes, c'est des gens qui sont par lien, par affinitaire, des gens qui se connaissent, qui habitent des territoires, les uns les autres. On a, depuis nos territoires, partout, mais vraiment partout, on sait que d'autres, comme nous, sur leur territoire, s'emparent des communs, s'en emparent, en tout cas, les défendent, font en sorte de les faire vivre, et les font vivre. Nos groupes vivent en connaissance des autres ailleurs. On fait commun aussi à travers, sur cette planète. Bon, alors, je ferais reprendre les écrits de commandant Marcos là-dessus. On avait là quelqu'un depuis le Capia qui disait « Nos luttes à travers la planète sont connectées par le fait de savoir que nous sommes là, que vous êtes là, que tous ensemble, ils et elles, sont là. » Voilà, c'était cette petite chose qui fait de nous un vrai groupe humain.
J'ai découvert l'existence du sous-commandant Marcos dans les années 90. Et voilà, j'ai découvert qu'il y avait un endroit qu'on appelle le Chiapas. Et il y avait quelque chose de pas de prophétique, puisqu'il vivait déjà ces choses-là au Mexique. Pays où il est moins cher de boire Coca-Cola que de boire de l'eau. Dans certains coins qui semblaient dans les années 90 de l'ordre de la science-fiction. Et que le sous-commandant Marcos et les gens autour de lui nous annonçaient comme venant chez nous. Ça n'avait rien de prophétique, c'était juste une mise en garde.
Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, de otro color y mismo corazón, aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Sin palabras no existimos, ya basta, vive la. la palabra, vive el ya basta. Sin palabra no existimos, ya basta. Vive la palabra, vive el ya basta. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la tierra y el mal gobierno ofrece cementerios. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Sin palabra no existimos, ya basta. Vive la palabra, vive el ya basta. Sin palabra no existimos, ya basta. Vive la palabra, vive el ya basta. Nos quieren quitar la tierra para que ya no tenga suelo nuestro paso. Nos quieren quitar la historia para que en el olvido se muera nuestra palabra. No nos quieren indios. Muertos nos quieren. No nos quieren indios. Muertos nos quieren.
Ya basta, ça suffit. La voix du sous-commandant Marcos sur ce morceau qui a été beaucoup diffusé par cette émission fin des années 90, avant de retrouver Phil pour cette journée festive organisée par la Conf d'Indre-et-Loire, festive et d'information, notamment autour du commun vital de l'eau.
C'est bien ce commun qui nous rapproche, moi de toi, toi de moi. Aujourd'hui, c'est l'eau qui est ce commun qui nous retient. Le partage de l'eau, on est dans le sud du Richelet, dans le Richelet.
Voilà. On est en région centre, sud Touraine, au sud de la ville de Tours. Pas loin d'une ville qui s'appelle Richelieu.
Et sur des rivières qui sont là très impactées par le changement climatique, qui continuent d'être très sollicitées pour l'agriculture intensive, notamment la rosace du maïs. On est face donc à évidemment des projets de fuite en avant du capitalisme agro-industriel, la récupération de maximum de possible de l'eau, de manière à pouvoir faire ces cultures qui sont pour part d'entre elles vouées à l'exportation et l'élevage de bovins via une déforestation en Amérique du Sud, par exemple. Pas tout, mais une part de ce truc-là, ça va là-bas, faut pas se voiler la face. Donc on est sur Champigny-sur-Vœux d'aujourd'hui. L'année dernière, en décembre 2023, on avait un projet de bassine, 88 000 mètres cubes de mémoire. Donc le projet a été critiqué, contesté auprès du préfet. Nous nous sommes mobilisés et nous avons réussi à rassembler plus d'une centaine de personnes la première fois qu'on s'est rencontrés ensemble le 16 décembre 2023. Le porteur de projet avait promis de faire quand même une consultation publique pour expliquer pourquoi il avait besoin de tant d'eau. Et on lui a demandé où est-ce qu'il en était, il ne nous a pas répondu. On lui proposait de le faire avec lui, là on fait sans lui. Et nous sommes donc ce matin à Champigny-sur-Veude avec une balade naturaliste. Bon, une prise de parole en premier, ensuite une balade naturaliste, ensuite une conférence d'Anne Morouane-Pastier. On ira sur l'étang d'Assay. Ensuite, on va avoir les bières de la conf, les goodies des soulèvements de la terre. Et on va avoir un concert. Des crêpes à manger, la cantine, tout le monde est là et ça va être sympa, il fait beau, profitons-en. On est dans la joie, on est dans la lutte qui continue. Notre action d'aujourd'hui semble être perçue par les personnes qu'on a rencontrées en amont un petit peu localement, parce que notre idée c'est quand même du local, que les personnes localement se réapproprient de comment, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on veut en faire, du peu d'eau qui est disponible, comment on se débrouille, non pas pour la stocker dans notre coin égoïstement et se la mettre sous le coude, mais l'avoir là pour pouvoir la partager. Donc c'est bien la question du partage de l'eau. Alors on n'appelle pas ça une ressource, on n'appelle pas ça un stockage naturel, on essaie de faire attention à notre vocabulaire, on parle de partage d'un commun.
Je reviens à cette affaire de Chavagne, là, donc on avait fait un reportage, on s'était vu d'ailleurs en décembre 2023. Donc il y avait donc cet exploitant agricole qui avait un projet de bassine privée. Et donc c'est contre ça qu'il y a eu d'abord une manifestation, une balade, et puis aussi de l'information qui a été délivrée aux populations locales. Il y a des gens qui sont allés tracter dans les boîtes aux lettres, enfin pour expliquer pourquoi. Il faut pas faire ça.
Arriver comme ça ex nihilo avec nos idées et puis les transporter à la campagne. On va vous expliquer ce qu'il faut penser. C'est pas du tout l'objectif. Il faut vraiment inverser cette tendance là. Au contraire, on veut faire informer les gens et ils le sont. Déjà, contrairement à ce qu'on veut essayer de nous faire croire,
Aujourd'hui, c'est une suite, enfin c'est les mêmes protagonistes ou c'est un autre exploitant agricole?
Aujourd'hui, il y a un projet localement qui est à l'enquête publique aujourd'hui, en ce moment et jusqu'au 10 avril, il faut le dire. C'est une extension qui va mener à une exploitation de plus de 800 vaches, dont 500 laitières, Holstein, des vaches bricolées génétiquement pour pisser du lait. On est bien sûr de l'industrie et derrière a collé un méthaniseur. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Les alternatives au pétrole sont mises en avant et l'agriculture devient au service de la production d'énergie. Devient plus au service de la production d'alimentaire, mais bien au service de la production d'énergie. Donc cette ferme qui aujourd'hui a 350, qui peut monter jusqu'à 800 en comptant l'ensemble des bêtes qui y sont, qui va épandre du lisier sur pas loin de 1000 hectares. Donc accolé à cette exploitation, c'est un méthaniseur. L'objectif, c'est de quoi? C'est de créer de l'énergie. C'est pas du tout de faire du lait, c'est pas du tout de faire de l'amendement pour les champs, parce qu'on utilise les déchets du méthaniseur. Il y a à y redire pour ce qui est du traitement du carbone et de comment on gère. Mais en tout cas, toute cette agriculture-là, elle est au service de la production d'énergie. Tout le reste, c'est des sous-produits. On fait 500 vaches pour faire de l'énergie, pour faire de l'énergie d'une alternative au pétrole. On ne se pose pas la question de savoir de qu'est-ce qu'on a besoin comme énergie, pourquoi faire. Non, il faut remettre de l'énergie dans les tuyaux parce qu'on en a besoin pour continuer ce développement, le modèle, allez, capitaliste. Donc cette chose-là, dont on va trop peu parler à mon sens aujourd'hui, donc ce projet de méthaniseur, dont sur la commune qui est juste à côté. Mais il y a un lien parce qu'on soupçonne que cette personne qui propose de faire un méthaniseur s'associe à la personne qui l'année dernière voulait faire une bassine et une troisième personne sans doute, qui sont donc trois exploitants agricoles aujourd'hui qui font de l'argent avec déjà de la méthanisation, déjà de la production de maïs à l'export, déjà des projets d'encore plus d'industrie agricole. C'est pas du tout le modèle qu'on veut défendre, c'est pas du tout le modèle dont nous avons besoin, je dis globalement, hein, c'est les terres, ici, en France, et pas seulement, mais il y a une tendance quand même à partir dans ce sens-là, vont aller de plus en plus vers la production d'énergie. On le voit avec les panneaux photovoltaïques sur terre vivante, les panneaux photovoltaïques sur forêt, en forêt après abattage conséquent, avec des primes versées aux agriculteurs pour produire l'énergie. Et c'est un vrai problème, puisqu'on a des petits, ou en tout cas des paysans, qui ont des dettes et qui vont pouvoir régler une partie de leurs dettes grâce à la production, à la mise en place de panneaux photovoltaïques sur leur propriété, sur leur champ. Et même parfois sur des champs qu'ils louent, et là, du coup, c'est quand même le propriétaire qui ramasse vraiment la mise. On est quand même face à une espèce de dystopie, encore une fois, que moi, j'arrive à prendre avec pas mal de recul, parce que sinon, je pleure. Et ça me semble important de bien, en tout cas de dénoncer cela, de le faire sereinement, dans la joie quand même, parce qu'il ne faut pas se rendre malade de tout ça, ça nous rend déjà bien assez malade. Et voilà.
Et évidemment, qui dit panneau solaire dit stérilisation, impossibilité d'exploiter des terres pour fabriquer de la nourriture. C'est que sous des panneaux photovoltaïques, il n'y a rien qui pousse, quoi. Enfin, on ne peut même pas faire pousser des moutons.
Le truc est vendu comme ça aux paysans. On leur dit, écoutez, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir en même temps faire de la production ovine. Ça se passe pas vraiment comme ça, quoi. La vérité, c'est que...
pousse pas sous les panneaux.
Alors, il y a de la place entre les panneaux. Faut un peu de place, que l'ombre du panneau de devant, il fasse pas d'ombre sur le panneau de derrière. Donc, faut un peu d'espacement, quoi. Donc oui, il y a de l'espace entre les panneaux, mais c'est plus de l'élevage ovin, quoi. Mais la question, c'est même pas ça, c'est quelle énergie? Et alors, sur la méthanisation, c'est absolument important. C'est-à-dire, quand on n'a pas assez pour donner à bouffer au méthaniseur, celui-là, il va bouffer 80 tonnes jour. On a regardé un petit peu les chiffres. On voit que la production de lisier de ces 1000 vaches, un peu moins de 1000, ok, la voie de cette production de lisier de toutes ces vaches, ça va être inférieur à ce que le méthaniseur peut bouffer tous les jours. Donc, pour le méthaniseur, on va continuer de faire des cultures intermédiaires à valorisation énergétique. Vous entendrez parler des cives. C'est pas la cive qu'on met dans nos salades. La cive, culture intermédiaire à valorisation énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant cela, on fait des rotations de culture. On se doit, quand on veut faire correctement de l'agronomie, on se doit de réenfouir certaines cultures tous les 3 ans, tous les 4 ans. Ça dépend ce qu'on veut faire, ça dépend comment on le fait, ça dépend des besoins de la terre. Mais on se doit de la renourrir, cette terre, de lui laisser du carbone, de lui laisser ce que la plante emmène du sol et le restitue au sol. Donc il faut laisser ça. Avec ces systèmes de méthanisation, on enlève tout. Jamais, jamais la terre ne se repose, jamais elle n'est renourrie par la plante. Et tout le carbone est transformé en méthane. Et donc, on va taper dans le mur un peu plus vite dans 50 ans en se disant nos terres sont définitivement mortes. En tout cas, il faut vraiment plusieurs années pour les restaurer.
et une fuite en avant sur on veut de l'énergie. Mais pourquoi faire? On ne se pose pas cette question. Pour rouler en Tesla, bah ok, bah on roule tous en Tesla. Mais on peut pas. On peut pas. C'est très clair. On va laisser plein de gens sur le bord du truc, quoi. Donc c'est pas possible. C'est pas souhaitable, c'est pas heureux, c'est même pas du développement, quoi. Voilà. Cette histoire d'agronomie est vachement importante. Essayez de bien comprendre que la Terre, là, elle va pas pouvoir se reposer. Elle va toujours produire pour une bestiole qui va faire de l'énergie. On est vraiment sur de la production d'énergie. C'est une centrale électrique qui est posée sur l'exploitation de la Terre, l'exploitation de ruminants, l'exploitation du vivant. C'est absolument pas tenable, quoi. C'est tout ce modèle industriel. Alors on ne va pas beaucoup en parler aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté là-dessus tout de suite, parce qu'on est sur l'histoire des bassines, parce qu'on est encore un peu, peut-être encore un peu timoré, puis on ne s'est pas tous rendu compte de l'ampleur de ce qu'il y a derrière, même si on est quand même pas loin d'être ignare. Voilà. C'est tout ce modèle agricole qui défonce, quoi. Donc on va le partager. Et les retours qu'on a eus
dans la population locale,
les gens comprennent, savent, sont au courant, ont réfléchi, se sont rendus compte. On est tout à fait légitime.
Et j'ai bien noté au passage que tu jettes pas forcément la pierre aux gens qui se sont endettés, qui sont pris à la gorge, qui voient là une solution. Enfin bon, voilà.
Ouais, là c'est un autre débat. Ils disaient ouais, mais non, les gens ils choisissent. Ils ont bien choisi de faire le boulot qu'ils font. Oui. C'est possible, c'est pas si simple à chaque fois. Il faut nuancer, c'est tous des gens. Il y en a qui ont des idées de merde et puis qui les assument, et puis il y en a qui sont pris à la gorge.
Des gens des soulèvements l'ont dit là cet été, la grille n'est pas l'ennemi, mais une victime aussi, souvent. Même s'il y a des abrutis qui font, qui font les mauvais choix. Il y a ce truc qui est diabolique, bien sûr, le meilleur endroit où l'eau est stockée, on va le redire au passage, c'est dans le sol.
Je t'invite à faire attention à notre vocabulaire encore à cet endroit-là. Stockage.
Pardon.
Non, mais t'as pas à être désolé, je veux dire, c'est pas si simple. Parce qu'en effet, faut savoir qu'une bassine, c'est pas une réserve de substitution.
Et l'eau n'est pas une ressource, c'est un commun vital.
C'est ça, ouais. c'est pas un bien commun. C'est un commun.
Et l'endroit naturel où l'eau doit être, c'est pas dans une bassine, c'est dans le sol où elle a toujours été et où elle est le mieux abritée.
Point de vocabulaire, le stockage. Il y a un truc intéressant, on va pas la faire cette balade-là, donc je vais la décrire. On est à Champigny-sur-Veude, dans les places du Château Rouge, et il y a la Veude qui passe là, il y a le Mable qui passe à côté, et on peut faire une petite boucle par le sud du village, sur la digue de la Veude. C'est pas super, les espèces sont pas exceptionnelles, ça a été vachement travaillé déjà, c'est pas très intéressant, et on arrive là sur une petite route, et là on voit que la Veude, elle est occupée par un habitant sympa, un architecte. Le castor. Il a bien inondé la peuplerie derrière avec son barrage qui est sur le bord de la route, tout près de la route. On voit très très bien. Actuellement, le barrage, il est ouvert. Est-ce qu'il a été ouvert ou est-ce que c'est le castor qui s'en est occupé? Est-ce que c'est des bipèdes qui se sont occupés d'ouvrir le barrage? Ça porte conflit quand même parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus aller dans leur parcelle. C'est compliqué. À des endroits, on finance les propriétaires de manière à pouvoir maintenir le castor et ça ne se pose pas de soucis. Et ça se passe dans les départements d'André-Loire aussi. Il y a des solutions. À cet endroit-là, on voit bien, quand on fait cette balade-là, on voit bien qu'il y a des peuplerets au milieu entre le Mable et la Veude. Et là, on voit des zones humides, on voit que l'eau, elle est là. Elle n'est pas stockée là, elle est là. Stockée, on a vraiment l'impression de... On se met ça de côté, quoi. Non, on va pouvoir s'en servir, oui, pourquoi pas. Mais soyons d'accord sur comment. Discutons ensemble des priorités. C'est beaucoup plus long de se mettre d'accord sur comment on va pouvoir partager ce truc-là que de dire « moi, je prends ça ». C'est beaucoup plus long. Et en attendant, entre ces deux rivières, qui prend l'eau qui est là? C'est l'ancien cours de ces rivières, quoi. C'est là le fond de vallée, c'est la zone humide, c'est la prairie humide, c'est aujourd'hui la peuplerie. Bon, il y a des projets sur voir comment on peut partout modifier les peupleraies et puis en faire des prairies humides, des prairies de pâture, pourquoi pas, comme c'était un peu, quoi. Ou bien non, ou bien simplement des endroits où l'eau est là et on sait qu'elle est là, elle est purifiée, elle s'infiltre dans les nappes et elle va être à la disposition de tous et de toutes pour faire ce qu'on a à faire avec. En faisant attention à ce commun et le gérer de façon commune. Donc là, cette petite balade-là, elle nous permet de voir, et ça c'est comme beaucoup d'endroits, avec toute l'eau qui est tombée là, on voit bien, justement, pas ce stockage, mais ce lieu, cette zone humide qui est là, qui est vivant. C'est l'eau vivante et libre qui est là, quoi.
L'eau, on ne peut pas survivre, je crois, plus de 3 jours sans boire de l'eau. Donc moi, j'ai accédé à tout cet univers diabolique de l'agro-industrie par le biais des bassines, de la lutte anti-bassines et de bassines non merci. Et là, on saluera au passage notre hydrogéologue préféré, docteur en sciences de la Terre, Anne-Morwen Pastier, qui explique vraiment très bien les choses. Parce qu'à bassines non merci, notamment, les gens sont très pédagogues. Et donc, moi, des fois, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Derrière cette monstruosité des bassines, en tirant la pelote, derrière, il y a des semenciers. Il y a des pesticides, un port colonial et négrier, le port de la Palisse par exemple. Il y a de l'artificialisation ou de la stérilisation de terres agricoles, un méthaniseur. Il y a dévoyé les terres nourricières pour fabriquer de l'énergie, effectivement pour faire quoi ? Porte d'entrée vers un univers en fait démoniaque. Et j'ai percuté cet été au village de l'eau que tout ça était un vaste puzzle mortifère dont les bassines sont un rouage parmi d'autres, porte d'entrée parmi d'autres, mais que derrière, il y a tout un système. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre.
Oui, ben en effet, de toute façon, il faut du temps hein, pour s'emparer de ces choses qui sont horribles là, qu'on n'a pas envie de voir. Je me souviens d'une caissière l'autre jour. J'avais acheté du poisson, c'était des maquereaux, et voyez les yeux du maquereau, ah, 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 je veux pas, caissière, hein, tu vois, elle devrait avoir une retenue, un devoir de réserve par rapport à ce maquereau.
Qui la regardait,
ouais, ce maquereau mort qui la regardait, quoi. Elle m'a pas laissé finir ma phrase, elle m'a dit, oui, je sais, ne me faites pas la morale, j'adore les barbecues, mais ne me faites pas la morale, je veux pas voir, j'ai horreur quand tu des bêtes, mais je mange des poissons. J'ai trouvé ça tellement mignon, quoi. Et en effet, on veut pas voir. Quand tu le prends en pleine face, ça fait chier, en vrai. C'est déstabilisant. Pourquoi tout ce monde d'injustice ? Et on n'est même pas égaux devant l'injustice, quoi. Parce qu'il y a des endroits, l'injustice, elle est bien pire qu'ailleurs. Et puis ça dépend d'où tu pars, d'où tu viens, comment t'es, d'où tu vis. À plein d'endroits sur la planète. Évidemment, moi, me vient Ramallah, Kalkilia, Gaza. Mais c'est du délire, quoi. C'est du délire. Et nous sommes humains capables de fabriquer ces choses-là. Battons-nous, évidemment. Ayons tous notre dignité placée au bon endroit. Et levons-nous, évidemment. Mais bon, après, je vais jamais dire à quiconque « Bah, pourquoi t'es pas avec nous ? Qu'est-ce que tu fous ? T'en pas compte ? Faut absolument se bouger. » Non, je sais que je le fais, j'adore le faire. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont contents qu'on le fasse à plusieurs. Et puis, ils savent qu'on est de plus en plus nombreux. Et puis, à un moment, on va vraiment être très nombreux. Et c'est parfait, quoi. On va se faire défoncer avant d'être très, très, très nombreux. Mais qu'est-ce qu'on aura rigolé ?
Ça m'amène vers la dernière question qui va boucler la boucle. Et donc, toi, en fait, comment tu vas ?
Moi, si j'ai pas ça, j'ai toujours fait, quoi.
Oui, c'est vrai.
Si j'ai pas ça, ça me manque terriblement. Je suis super content d'arriver aujourd'hui. Les semaines de préparation de cet événement aujourd'hui, c'est beaucoup de boulot. On a la pression, mais en même temps, on est serein. Puis, je me dis, ah bon, je vais pouvoir me reposer après. Mais c'est absolument faux. Je sais très bien que je vais repartir aussitôt sur autre chose, sur un autre mouvement extraordinaire, sur une envie de faire ensemble avec tous les copains, là. Ça va être formidable. Voilà, c'est ça qui me tient.
Sin palabra no existimos, ya basta. Vive la palabra, vive el ya basta. Sin palabra no existimos, ya basta. Vive la palabra, vive el ya basta. Nuestra lucha es por la libertad, para el pensamiento y el caminar. Y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Callando nos moríamos, sin palabra no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Sin palabra no existimos, ya basta. Vive la palabra, vive el ya basta. Sin palabra no existimos, ya basta. Vive la palabra, vive el ya basta.
Suite de cette journée champêtre du 5 avril 2025 près de Champigny-sur-Veude, avec des prises de parole de membres et sympathisants de la Confédération paysanne.
Donc c'est une journée de réflexion sur cette chose importante qui est l'eau, ce commun, cette chose qu'il nous faut gérer. Cette journée, elle fait suite à une journée de mobilisation que nous avons déjà eue ici en décembre 2023 à Chavaigne. Sur le projet d'une bassine qui devait faire 80 000 mètres cubes d'eau à peu près. Ce projet, il a été abandonné sous sa forme initiale, mais il continue, on dira, à être en évolution. Il était prévu qu'il y ait aussi une organisation d'une concertation locale. Cette concertation n'ayant pas lieu, nous, on a souhaité faire une journée qui permette de discuter et de s'informer. Donc maintenant, ce projet de première bassine là, semble se transformer en un projet collectif beaucoup plus gros. Étant donné l'évolution de ces projets et l'utilisation de l'argent public qui est faite dans ces projets, qui par ailleurs, sans argent public, ne serait pas viable, donc, et en raison aussi du fait que le cadre réglementaire devient de plus en plus sévère et facilite l'installation des bassines dans des délais courts, nous avons choisi aujourd'hui de nous mettre un peu en alerte vis-à-vis de ce qui peut advenir localement en termes de bassines. L'idée, c'est que chacun s'informe, puisse discuter sur le partage de l'eau aujourd'hui. Nous sommes assez déterminés à rester mobilisés vis-à-vis de ce combat, éventuellement à entreprendre des recours s'il en était besoin. Et aujourd'hui, donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans cette discussion. Nous avons fait le choix d'une mobilisation joyeuse et festive. Bon, j'espère que ce sera une bonne journée pour discuter et avancer dans cette réflexion. Donc maintenant, je vais passer la parole à Fanch qui va nous présenter le point de vue, on va dire, paysan et des paysannes aussi.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis paysan boulanger, pas loin, là, sur 25 hectares, en polyculture élevage, en vente directe bio. J'ai envie de commencer par reprendre une phrase de Nicolas Giraud, ancien porte-parole de la Confédération paysanne. Il dit « Que les choses soient claires, on ne s'oppose pas au fait d'irriguer, mais le système bassine n'est rien de moins qu'une privatisation d'un bien commun. On voudrait des agriculteurs et des agricultrices qui nous nourrissent et qui n'exportent pas notre eau. » Donc ça recadre bien la problématique que l'eau est un bien commun et que le but, c'est pas qu'il y ait des très gros, très forts qui s'accaparent ce bien de tous. Pas que pour les agricultrices, agriculteurs, mais aussi pour les citoyens, citoyennes qui vivent sur ce territoire. Donc ce combat pour le bien commun, c'est le nôtre, c'est l'eau. On voit qu'il y a des années problématiques comme 2022, hein, l'eau se raréfie. Donc ça pose des tas de questions. Les bassines, c'est quoi? C'est fait pour les agricultures d'un modèle intensif et industriel, modèle qui brasse énormément d'argent au détriment du territoire et de la nature. En fait, il faut savoir que les investissements en agriculture sont assez colossaux, souvent financés par l'Europe et régions, départements et autres. Ça pose des tas de questions sur ces modèles-là, déjà, par rapport à l'argent commun. Les méga-bassines, c'est quoi? C'est en moyenne entre 8 hectares et 18 hectares, grosso modo, de sols qui sont artificialisés. Même si le projet en question était plus modeste, quand il va revenir au jour, sera-t-il plus grand? Toujours est-il que ça représente, pour un petit projet comme celui-ci, parlons-en, à peu près 3 hectares d'artificialisés. 3 hectares ramenés à ce que je connais, c'est l'équivalent de 100 familles que je nourris en pain par an. Donc on peut installer un maraîcher aussi dessus, voilà, ça donne un ordre de ratio des choses, quoi. Sachant qu'en fait, les cultures qui sont faites dessus, c'est surtout du maïs irrigué qui part à l'alimentation animale, souvent à l'autre bout du monde, et qui en plus font marcher la spéculation voilà, des céréales et autres. Donc il y a quelque chose de pas tout à fait ajusté là-dessus. Sachant qu'en fait, il y a des alternatives. Moi, personnellement, je cultive un maïs population qui est bien moins gourmand en eau. Le rendement est peut-être moins, mais finalement, quand on fait les équations du coût de revient et des conséquences que ça a, il reste donc aux paysans, en fait, la responsabilité de faire des choix qui soient bons pour tous, en fait. Respecter la vocation des terres. On va pas semer un maïs sur une terre qui n'est pas capable de la porter. S'il s'agit de l'irriguer, c'est une aberration. Donc chaque paysan doit être responsable, chaque agriculteur, agricultrice doit être responsable de ce qu'il fait. Parce qu'en fait, il y a des conséquences. Hein, le pompage des méga-bassines se fait en général l'hiver dans les nappes. Mais l'hiver, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les nappes qu'il faut déjà les vider avant l'été, en fait. Une fois qu'elles sont vides, elles se remplissent plus. Hein. Donc en fait, on appelle ça des descentes de nappes. Du coup, bah, les puits deviennent secs et ne se rechargent peut-être plus jamais, d'ailleurs. Donc en fait, il y a une responsabilité des paysans d'une part, en fait de chacun aussi. Hein. Chacun doit se responsabiliser en tant que citoyen de pas laisser faire n'importe quoi sur son territoire. Quant aux finances publiques, elles doivent pas se diriger vers des systèmes... Parce qu'en fait, une méga bassine, c'est en général financé à 70%. Une petite bassine, comme il était prévu ici, de 80 000 m3, c'est 800 000 euros à peu près. Alors si elle est financée, ça fait quand même de l'argent. Si elle est plus grosse, ça fait encore plus d'argent. Au-delà du partage équitable de l'eau, il n'y a pas un partage équitable des richesses non plus qui est fait dans cette histoire. Et donc en conclusion, il y a un enjeu vital pour que tout le monde se saisisse de ce sujet et qu'on ne laisse pas faire les accaparateurs. L'eau doit rester donc un bien commun et non un bien de marché qu'on stocke mal en plus, parce que en fait, il y a une évaporation énorme dans les mégabassines, ce qui n'est pas le cas sous la terre, et qui génère beaucoup de spéculations et de dysfonctionnements et en fait d'inégalités entre les manières de cultiver de certains qui auront des moyens beaucoup plus puissants à reproduire, ce qui est déjà un petit peu le cas, mais ça va encore creuser l'écart. Et c'est un danger pour nos modèles socio-économiques.
En muchas montañas y muchas historias ha caminado la rebeldía contra la injusticia. Ha hablado ya en lengua náhuatl, paipai, quiligua, cúcapa, cochimí, cumbiaí, chuma, seri, chontal, chinanteco, pame, chichimeca, otomí, ocuilteco, matlaquinteca, mazahua.
No morirá la flor de la palabra.
Zapoteco, solteco, chatino, papabuco, mixteco, cuicateco, amuzgo, triqui, mazateco, chocho, iscateco, guave, tlapaneco, totonaca, tepehua, opoluca.
No morirá la flor de la palabra.
Mije, soque, huasteco, lacandón, maya,
Nous n'avons pas besoin de demander la permission d'être libre, dixit le sous-commandant Marcos, avant de poursuivre avec Gaëlle, une copine de la conf, et l'une des organisatrices de cette champêtre journée à Champigny-sur-Veude. Fabuleuse journée printanière ce samedi 5 avril.
À l'étang d'Assay, collé à la commune de Champigny-sur-Veude.
Dans le sud de la Touraine. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Tu parles au nom de la Confédération Paysanne, là, aujourd'hui, maintenant, à ce micro? Ou en tant que toi?
Plutôt en tant que moi. En tant que moi et en tant que militante engagée sur des actions locales.
Et paysanne.
Et paysanne. C'est difficile toujours de se couper en plusieurs morceaux. Donc évidemment qu'il y a toujours un petit bout de la Confédération Paysanne en moi, qu'il y a toujours un petit bout de militante engagée et aussi avec des collectifs qui luttent un peu sur la question de l'eau, en fait, voilà, à tout ce nom-là que je cause.
Et cette question de l'eau, donc ce commun vital essentiel, est une porte d'entrée, parce que derrière l'eau, il y a aussi dans le désordre des produits chimiques, des méthaniseurs, du béton, des panneaux solaires qui sont censés remplacer du pétrole. Certes, il y a l'eau, mais en fait, ces bassines, on le dit, on le redit, sont l'un des multiples rouages
de cette machine mortifère de l'agro-industrie, voilà, qui va jusqu'au port de la Palisse et jusqu'à un système de domination coloniale sur le reste du monde. L'eau, un commun vital, mais une porte d'entrée vers plein d'autres choses. Voilà, on parle de méthaniseurs beaucoup aujourd'hui,
oui,
par exemple.
Oui, effectivement. Alors, c'est aussi une porte d'entrée sur une lutte locale, en fait, et de un peu faire le lien entre la politique internationale, qui est un enjeu au niveau local. Parce que c'est vrai que souvent, les gens ne voient pas forcément le lien entre ce qui peut se passer, par exemple, avec les accords de libre-échange, les politiques de prix des produits agricoles, et nous, ici, dans le Richelais, concrètement, quand on est paysan et paysanne, et quand on achète des produits sur le marché, c'est quoi le lien? Et en fait, moi, je trouve que c'est fondamental, c'est lié directement. Nous, si on veut vivre de notre revenu, si on veut que l'agriculture paysanne dure dans notre coin du Richelais, là où on est, hein, on est dans le Richelais, eh ben, c'est lié à une politique internationale agricole bien plus large. L'eau, c'est une porte d'entrée parce que, évidemment, l'accaparement de l'eau à certains et pas à d'autres, ben, c'est un enjeu pour les paysans autour et puis pas que les paysans et paysannes, hein, pour les habitants des villages aux alentours. On le voit, hein, dans certains pays déjà et dans certaines régions de France, t'as des villages qui galèrent pour avoir de l'eau à cause justement de bassines comme ça qui sont implantées par ailleurs. Et donc, c'est un peu montrer l'enjeu qu'il y a quand on est habitant de Richelieu, qu'on va acheter ses légumes à Nico qui est sur le marché, et ben en fait, toute cette politique agricole internationale et européenne, ça a un impact directement sur nos paysages. Ce qui m'importe beaucoup, c'est que déjà, il y a des événements qui se passent comme ça localement. C'est hyper important. C'est à la conf, effectivement, on a une phrase qui dit « on veut des campagnes vivantes ». C'est hyper important d'avoir des campagnes vivantes. Là, moi, ça me fait plaisir énormément parce qu'il y a plein de gens du coin, il y a plein de gens de Richelieu, il y a plein de gens de Chinon et ils sont venus là pour chercher de l'info, ils sont venus là aussi pour un moment convivial parce qu'en fait c'est important de faire du lien, la lutte elle est belle quand elle est joyeuse à mon avis et elle est joyeuse si on se voit ensemble, si on discute ensemble sur des moments comme ça, c'est un endroit qui est beau, les gens connaissent pas forcément. L'idée, c'est que effectivement sur cette lutte-là de l'eau, sur ce prisme de l'eau, on puisse dire mais en fait on est impacté. T'habites à Richelieu, tu peux pas dire non, ça me regarde pas, c'est une question agricole. Moi, je m'agace souvent parce que ces luttes-là, c'est pas. Souvent, il y a quand même pas mal d'agriculteurs qui disent allez, vas-y, laisse-moi travailler, c'est mon problème, fais pas de l'ingérence dans mon taf, quoi. Et moi, j'aime dire, et à la conf, on aime le dire, que, en fait, ça regarde tout le monde, ces questions agricoles. C'est de la production agricole, normalement, c'est alimentaire. On bouffe tous. Donc ça nous concerne tous et toutes. C'est pour ça, moi, je suis très contente parce qu'il y a des gens qu'on a croisés au marché, qui ont vu le flyer, qui sont venus. Ils sont intéressés, ils discutent, ils font des liens qu'ils ne faisaient pas forcément. Là, il va y avoir la conférence d'Anne Morouen-Pastier. Ils viennent chercher de l'information et on crée du lien. Il y a des gens qu'on voit souvent, mais on ne prend pas le temps de, tu vois, d'avoir des moments ensemble. C'est quand même rare et c'est hyper précieux. Pour agrémenter la lutte, pour dire qu'on n'est pas tout seul. Et en milieu rural, il n'y a pas tant d'occasions que ça. Et puis, enfin, moi, je sais pas, en ville, c'est pareil, j'imagine. Mais en tout cas, en milieu rural, je trouve que c'est beau. Et ce que je trouve beau, c'est que c'est complètement informel. On s'est mis là, on a posé un peu nos valises et ça s'organise. Et tu vois, tout à l'heure, il va y avoir un moment festif de concert. Après la conférence, on pourra danser. Enfin voilà, je trouve que c'est vivant, c'est vraiment le mot.
Et là, on sort un petit groupe d'une balade avec deux naturalistes, nous emmenaient ces anciennes zones de pisciculture. Les grenouilles chantaient dans tous les coins, il y avait des oiseaux, des anciennes zones de pisciculture qui ont été abandonnées en tant que telles et qui sont passées sous égide du département.
Du conseil départemental, voilà. Ouais, exactement. Et c'est un lieu, il y a une dizaine d'années, il n'y avait rien, tu vois, c'était complètement abandonné, ça ressemblait à rien. Il n'y avait pas d'aménagement qui permet aux gens aussi de se balader parce qu'en fait, il faut que ça donne envie. C'est très peu connu par les gens du coin, mais ceux qui connaissent, ils aiment bien. Et la balade, franchement, elle est agréable. Non, quoi.
Mais c'est génial.
Ouais.
Les grenouilles chantaient très fort et en pleine journée d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup surpris.
C'est le printemps.
Cette eau, ces bassines, elles ne flottent pas dans la stratosphère comme ça. C'est aussi inscrit dans des territoires comme celui-ci.
partez finalement d'exemples très concrets. On voit une zone humide qui est potentiellement en danger. Cette zone humide, elle est très riche au niveau de la biodiversité, voilà, insectes, végétaux et tout ça. Cette zone humide dont on a besoin, qui est l'une des meilleures manières de garder notre eau aussi et d'alimenter les nappes phréatiques. Cette zone humide qu'on vient de traverser, elle est en danger. Donc.
Ici, on a la Veude et le Mable, des cours d'eau qui traversent comme ça la campagne. Et d'ailleurs, on peut le voir, il y a des fermes régulièrement qui sont au bord de ces cours d'eau depuis des siècles et qui, effectivement, font de l'irrigation. Hein. On n'est pas contre l'irrigation pour l'élevage, pour les cultures, mais qui font ça, tu vois, de façon déjà légale et qui font depuis la nuit des temps... Ils ont fait des retenues, tu vois, à côté, et ils irriguent, ils prennent de l'eau, ils bossent beaucoup avec le syndicat de rivière, tu vois, nous on est en lien avec le syndicat de rivière du coin, et ces agriculteurs-là, ils bossent avec le syndicat de rivière pour justement voir combien ils peuvent prendre, jusqu'à combien, etc. Et l'idée là qu'il y a dans ces futurs projets, où on n'a évidemment pas beaucoup de renseignements pour le moment, parce qu'ils font bien attention de ne pas nous dire trop de détails. Là, l'annonce, ce serait que ça mettrait complètement à sec le Mable et la Veude. Donc déjà, tu vois la catastrophe que c'est pour la biodiversité. S'il n'y a plus de flotte, hein, bah, il n'y a plus de vie. Hein. Bah, évidemment, on peut s'imaginer que nous, si on ne boit pas pendant plusieurs jours, on crève. Bah, la faune et la flore, c'est pareil. Et du coup, ça met aussi en péril les exploitations à côté. Et c'est pour ça, quand on dit qu'il faut la partager, il faut faire ça en fait en bonne intelligence et ensemble et avec une concertation citoyenne. C'est ce qui était prévu normalement, sauf que là, nous, on attend toujours la concertation. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, bon, ben, ils font pas la concertation, nous, on va l'organiser, en fait. On va faire de l'information, au moins, que les gens soient un peu au courant si jamais il y a à un moment une concertation. On a fait une lettre, tu vois, le collectif, là, Interorgao du 37, a fait une lettre à l'agriculteur qui avait eu ce projet-là l'année dernière, qui est resté sans réponse, en lui demandant, bah, en fait, vous aviez parlé d'organiser une concertation publique, vous en êtes où? Et effectivement, ce serait une catastrophe, mais une catastrophe sous toutes les formes, c'est-à-dire une catastrophe écologique, une catastrophe économique, et pour les personnes qui feraient ce projet, parce qu'en fait, ils s'endettent à mort. Hein. C'est des modèles économiques qui sont après intransmissibles. Moi, je pense que ces gens-là ne sont pas non plus, je sais pas si on peut parler de heureux ou à l'aise, mais en fait, ça pose des gros problèmes aussi pour ces personnes-là.
Ils le savent bien, en fait, qu'une fois que les nappes seront vides, ça va être compliqué d'irriguer du maïs destiné à fabriquer des hamburgers.
Ouais, c'est clair. Et puis, ils se mettent dans des situations économiques toujours hyper précaires. Tu vois, ils vont s'endetter. Il y a l'État qui prend en charge une partie, mais il faut quand même qu'ils aillent à la banque, tu vois, les mecs. Et en fait, je jette pas la pierre parce qu'en fait, ils sont enfermés dans des cadres. Moi, j'en veux beaucoup à l'État, en fait. Enfin, j'ai pas de haine vis-à-vis des gens qui font ce modèle-là parce qu'en fait, ils sont enfermés dans un modèle et ils voient pas comment... Je pense que c'est hyper dur quand t'hérites de ferme de ton père, qui est ton grand-père. Toi, tu suis le modèle et en fait... L'État fait tout pour qu'il reste enfermé. L'autre jour, on m'a rapporté, tu vois, le préfet de la Vienne, il était dans une réunion avec des syndicats de rivière et il disait, il nous faut des bassines, il nous faut du bassine, mais en mode complètement énervé, en criant, en tapant du pied. Et du coup, il pousse parce que, tu vois, ils se disent qu'il y a quand même toujours des thunes à se faire là-dessus, sur le dos, des agriculteurs qui se mettent dans une merde. Donc, j'ai pas de pitié ni de compassion pour eux, c'est pas ça. Mais je pense qu'en fait, le problème, c'est pas ça. Hein. C'est au-dessus l'État qui se fout bien de la gueule de tout le monde, c'est-à-dire et de ces agro-industriels qui se mettent dans des schémas dont ils pourront jamais sortir correctement. Et on a des exemples. Moi, je connais des gens, tu vois, c'est des enfants de ces gens-là. Ils sont pas bien du tout. Ils se sont à moitié retrouvés forcés à enchaîner sur à récupérer la ferme de leurs parents et ils sont mal comme tout. Enfin, je crois que dans cette histoire, il faut considérer les gens, tu vois. Ils se trouvent dans des situations aussi de merde, en fait. Et pour moi, c'est l'État qui instrumentalise tout ça. C'est une volonté, en fait, et c'est un mépris de classe pour moi terrible, en fait. On fait pas attention aux paysans et aux agriculteurs et agricultrices, en fait. On s'en fout, tu vois, c'est un mépris. Et pour les gens qui se mettent dans la merde, parce que la course au productivisme, moi, je pense que, en fait, ces gens-là, ils sont pas bien avec ça non plus. Et puis, les paysans et paysannes, les agriculteurs et les agricultrices qui font leur métier de façon à respecter l'environnement, à respecter les hommes et les femmes qui travaillent la terre. Et ben en fait, ils ne trouvent pas leur place là-dedans, mais c'est toujours une question économique, c'est comment tu fais du revenu. Tant que les paysans et paysannes ne pourront pas vivre de leur taf, c'est quand même de là que ça part. Hein. Tant que les paysans et les paysannes et les agriculteurs, les agricultrices, on les appelle comme on veut, ils ne pourront pas vivre de leur métier, ils chercheront toujours à faire de la merde comme ça. Pour l'énergie, ça rapporte mieux, tu vois. Avoir un méthaniseur, ça rapporte mieux. Avoir des panneaux solaires sur tes terres, ça rapporte mieux. Des éoliennes dans ton champ, ça rapporte plus de thunes que faire pousser du blé pour...
Il faut même de faire des thunes, déjà rembourser les dettes,
mais
quoi.
Oui.
Quand tu dis l'État, en fait, bon, l'État n'est qu'un laquais de quelques gros riches, enfin, de multinationales.
Ouais, laquais où ils ont des intérêts très...
Non, mais ils sont au service de semenciers, de marchands de béton, de quelques gros céréaliers.
Président de la FNSEA, tous les agro-industriels qui ont intérêt à faire en sorte que cette agriculture-là, ce business-là, c'est vraiment un business perdure, quoi.
Il y a eu aussi aujourd'hui, comme il y a 2 ans d'ailleurs, une campagne de distribution de tracts pour les habitants d'ici, pour leur dire quoi d'ailleurs ? Nous ne sommes pas ces vilains éco-terroristes dont la télé vous parle, d'ailleurs ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'ils disent,
non,
ces tracts ?
Ouais, ces tracts, ben, ils disent un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire casser les clichés qu'on a des bassines, comme quoi ce serait vraiment sans aucun incident écologique, ce serait juste des réserves d'eau qui se remplissent miraculeusement par l'eau de pluie. Donc c'est un peu expliquer, en fait, que non, une bassine, de dire un peu les conséquences que ça a pour la population, hein, des problèmes d'eau potable, puis aussi de dire ces mégamassines, à qui elles servent. Elles servent à des agriculteurs qui ne font absolument pas d'alimentation. Et ça, souvent, les gens, ils ne voient pas. Ils croient que ça va permettre d'irriguer les champs de blé qui finiront par des farines et du pain dans leurs assiettes. Non, c'est du maïs en général. Et tout ça, ça finit effectivement dans des méthaniseurs pour faire de l'énergie.
Où c'est exporté sur les marchés mondiaux,
destiné
à des camps de concentration pour vaches.
Ouais,
je ne sais pas si la caricature est un peu trop forcée, mais je dis, pour aller vite, quand j'explique ce que c'est qu'une bassine aux gens, je dis, on est en train de vider des nappes phréatiques pour fabriquer des hamburgers.
Bah oui.
Pas forcément en France en plus.
Ouais, ouais. Je pense qu'il va falloir qu'on enchaîne.
C'est quoi la suite là ?
En fait, la suite, c'est il y a la conférence et puis on va faire un hommage aussi à Pierre Alessandri, notre camarade paysan corse qui s'est fait assassiner mi-mars.
Un de vos camarades qui luttait notamment beaucoup sur les questions mafieuses.
Des aides à la PAC. En Corse, apparemment, il y a une enquête qui est en cours depuis des années. Et Pierre, il luttait effectivement pour mettre à jour en fait les détournements de fonds de la PAC, qui apparemment bénéficiait de passe-droits pour certains agriculteurs et agricultrices. Et puis aussi, il luttait aussi beaucoup sur les... Il s'est battu très très longtemps sur les questions du foncier, de l'accessibilité au foncier pour les agriculteurs et agricultrices en Corse.
Et cet homme a été assassiné de 2 balles dans le dos, on ne sait pas encore par qui.
C'était au mois de mars, il avait déjà en 2019 subi un incendie criminel sur sa ferme pour avoir pris des positions très... ferme sur justement les aides à la PAC et puis les dérives mafieuses qu'il existe en Corse au niveau agriculture.
Et là, on parle d'un meurtre et je crois que ça fait très longtemps qu'il ne s'est pas assassiné de syndicaliste en France. Cela dit, le député et paysan Benoît Habiteau raconte aussi qu'il y a eu des coups de fusil qui ont été tirés. Et là, c'est pas en Corse, hein, c'est dans le Poitou.
Mais partout en France. On subit, il faut savoir, hein, là, on a un camarade, hein, Richelieu, qui a quand même subi des menaces et des intimidations par rapport à la journée d'aujourd'hui. Hein. Et on a aussi des collègues dans différents coins de France qui se sont fait aussi cramer leur ferme pour des postures syndicales et politiques. Donc ça arrive régulièrement.
Voilà, et pas qu'en Corse, hein, sur tout le territoire.
Non, mais oui, t'as raison, c'est important de le dire parce que comme si c'était minimisé parce que c'est en Corse.
Oui, voilà, c'est ça.
Et ça, moi, ça me fait bondir et c'est horrible. Et je trouve ce qui nous a tous et tous choqués, c'est qu'il y a eu très très peu de réactions politiques et syndicales. Alors pas les syndicats ouvriers, on a eu Sud, tout ça qu'on a eu. Mais tu vois, les autres syndicats agricoles, quand bien même, enfin je sais pas, il y a un mec de la CR qui s'est assassiné pour ses idées politiques. Évidemment qu'on va faire un mot et partager la peine. Il faut pas laisser passer ça. Tu peux pas être assassiné pour des postures syndicales. Il faut réagir.
rassemblés un petit peu solennellement. On va rendre un hommage à Pierre Alessandri. Ça nous semblait important aujourd'hui de le faire devant vous, même si c'est un moment festif. On avait envie de vous lire un texte de la Confédération paysanne. Nous sommes en deuil, nous sommes en lutte. Pierre Alessandri, paysan corse, militant et secrétaire général de la Via Campagnola, syndicat membre de la Confédération paysanne, est mort, assassiné de 2 balles dans le dos ce 17 mars. Nous pensons à sa famille et à ses proches, à nos collègues corses, et nous leur présentons nos condoléances et tout notre soutien. Ses engagements multiples pour la défense du foncier agricole et de l'agriculture, ainsi que ses positions fermes et courageuses contre les pratiques mafieuses, sont connus de toutes et tous en Corse. Il s'était dressé courageusement contre les fraudes aux aides PAC, système corrompu qui permettait à quelques-uns et quelques-unes de se remplir les poches. Il réclamait simplement un système juste pour tous les agriculteurs et toutes les agricultrices corses. Pierre avait déjà subi un incendie criminel sur sa ferme en 2019. Le procureur de l'époque déclarait que la piste privilégiée est celle d'une réaction violente liée aux positions syndicales de Pierre Alessandri. Ce meurtre intervient peu de temps après des déclarations fortes contre les pratiques mafieuses en Corse, pour la défense des terres agricoles et l'arrivée, pardon, de la Via Campagnola et ses alliés à la tête de la Chambre d'agriculture en Corse. C'est donc bien le syndicaliste, camarade, militant qui a été tué. Le meurtre d'un syndicaliste sur le territoire français est un événement dramatique dont nous devons tous et toutes mesurer l'ampleur. Nous exigeons que l'enquête soit menée rapidement à son terme. Le silence assourdissant des plus hauts responsables agricoles, politiques et de l'État est scandaleux pour notre démocratie. Les menaces, intimidations, incendies de fermes et assassinats de paysans et paysannes doivent cesser. Celles et ceux qui produisent l'alimentation et prennent soin de la terre doivent être protégés et non harcelés, réprimés et assassinés. Nous ne laisserons pas les intimidations infléchir notre détermination à militer pour un monde plus juste. Nous ne nous tairons pas face à la force, à la terreur et les intérêts puissants. Nous saluons l'engagement, le courage de Pierre et de la Via Campagnola. La Via Campagnola a clairement réaffirmé à poursuivre ses luttes pour l'agriculture, la défense des terres agricoles et la justice. La Confédération paysanne s'est engagée également à poursuivre cette lutte. La lutte pour défendre les droits des paysannes et paysans est une lutte sociétale et nous serons nombreuses à la mener, unies contre les violences.
Et voilà les amis, c'est sur cet hommage à Pierre Alessandri que prend fin cette émission, à télécharger sur notre site polémiquecestlavoixoff.com, comme les épisodes de notre série Village de l'eau et plein d'autres reportages. On se retrouve très bientôt sur votre radio libre préférée. Ce n'est qu'un combat, continuant le début, Nobasaran.